Vite hein. Monsieur vous là. Monsieur vous là. Monsieur, c'est magnifique. Envoyez ça à Total Direct Energy, ils peuvent faire de la pub avec ça. C'est génial.
Ouais, je me suis bien amusé avec ces cadres là. Bah, ça me permettait de peindre aussi par derrière, par le haut. Enfin, ça donne des choses un peu. Un peu différentes sur les textures, ouais.
Bonjour Monsieur Boulle.
Bonjour.
On va dire que vous débarquez de la condition publique pour venir à Lens, à l'ex-Banque de France.
Exactement. Et Lens, je connaissais pas en plus, j'étais jamais venu. Terrible, incroyable. Non, très content. Oui.
Un bel espace ici, dans cette pièce-là, où vous avez, on va dire, une série.
Tout à fait, une série que j'ai produite juste pour l'occasion. Pour la petite histoire, j'avais pas compris que j'allais exposer ici. Je venais pour la scénographie de mon collègue David Hulot qui expose aussi là. On avait fait une collaboration sur un décor et je venais pour la scénographie de cette histoire-là. Et j'avais pas du tout compris qu'on m'avait réservé un espace. Et donc j'ai eu 5 semaines pour sortir une expo, mais ça tombait bien parce que j'étais en train de travailler sur ces toiles de sérigraphie que j'ai peint. Au recto et au verso et que je voulais rétroéclairer, donc ça tombait plutôt bien dans le timing, mais c'était un peu stressant parce que l'espace est assez beau et je voulais être un peu à la hauteur du truc quoi.
Voilà donc des œuvres, on peut dire peut-être d'un mètre sur un, quelque chose comme ça.
La plupart font 140 sur 120 je crois, ouais. les grandes toiles de sérigraphie, et là les 3 petites toiles, ça c'est des toiles que j'avais en stock. Je me suis permis d'en ramener quand même déjà produites, mais oui c'est ça, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Mais c'est des grands formats, ouais.
Donc on a l'impression d'une vraie série avec un thème...
Ouais. Le principal lien entre les différentes toiles, c'est plus le support utilisé, en vrai. Puisque au final, il y a le support et le personnage, puisque c'est toujours le même. Et c'est mon cadre de travail que j'apprécie, dans lequel je m'amuse. Donc voilà, c'est Monsieur Voulle partout, évidemment. Mais ce qui fait le lien principalement, c'est le support utilisé. Ces vieux cadres avec de la patine. Et puis après, je me suis laissé un peu emporter sur certains titres dans l'ambiance grolandaise, on va dire.
Donc ce sont un peu des autoportraits quand même.
Oui, quelque part, oui, c'est mes traits, mais c'est un personnage que je développe depuis de longues années et que j'ai joué à une époque en vidéo et en photo, donc il y a un certain décalage.
Avec cette toile-là où on a un personnage double.
Oui, c'est ça.
Mr. Jekyll and Mr. Hyde.
C'est un peu ça, oui. Pour tout vous dire, il s'appelle Gilles et Jacques, parce qu'il y a un petit aspect un peu chelou, mais c'est dans l'ambiance grolandaise, disons.
Alors ce chapeau claque.
Ah oui, le chapeau de forme, ça c'est venu de la création du personnage. Je voulais créer un personnage un peu burlesque, un peu passe-muraille à l'époque. Et je le jouais en photo et on faisait des vidéos un peu à la Méliès avec des disparitions, apparitions d'objets, des choses comme ça. Donc je l'ai vraiment développé dans cet axe-là, un peu burlesque.
Et donc qui date de quelle époque ce chapeau ?
25 ans ce personnage, mais ça fait 6 ans qu'il descend dans la rue.
Et donc là il est un peu enfermé dans une banque.
Ouais, c'est assez étrange, c'est la première fois d'ailleurs que je peins sur un mur comme ça, sur une expo.
Voilà, on va vous laisser accueillir vos visiteurs.
Oui, dis donc, il y a du monde.
Du monde à Lens, hein ?
Incroyable, bon. Très sympa.
David Hulot, bonjour.
Bonjour.
Donc on vous retrouve à l'ex-Banque de France, à Lens, pour une exposition avec un de vos collègues.
Oui, tout à fait. Alors collègue, c'est une rencontre que j'ai faite après le confinement. Monsieur Voulle, qui est un artiste pluridisciplinaire, comme il se définit lui-même. Et on a pris contact sur Instagram, on a beaucoup échangé et nous est venue l'envie de faire la collaboration qu'on voit dans la pièce suivante, où il s'est réapproprié un de mes décors en carton qui sert à mes shootings photos, et ça nous a servi de base, une fois qu'il l'avait redécoré, à la mise en place de portraits qu'on a fait avec lui. C'est la série que vous allez pouvoir voir dans les salles qui suivent.
Donc dans cette ex-Banque de France, il y a plusieurs salles qui abritent, accueillent vos œuvres. On peut dire qu'il y a plusieurs espaces différents en termes de thématiques.
Oui, alors le premier, c'est une série qui a jamais été exposée. C'est la série Pulp et Baby Movie qui est une boîte à souvenirs de tout ce qu'on a pu connaître, moi j'ai pu connaître dans mon enfance, tout ce qui m'a fasciné en termes de science-fiction, d'affiches de films que je voyais pas forcément, mais rien que l'affiche me faisait rêver, ou des films que j'ai vus, des magazines comme Metal Hurlant. Voilà, c'est vraiment une boîte souvenir avec toutes ces Madeleine de Proust. qui ont été mises en scène. Et je, durant le confinement, j'ai commencé à travailler sur des décors en carton. Donc toutes les photos que vous voyez là sont réalisées avec, en prise de vue réelle. C'est vraiment un modèle dans un décor entièrement créé en carton et non pas un montage photo où voilà, tout est en prise de vue réelle et l'éclairage au flash est pris instantanément. Donc ça c'est la première salle. La deuxième salle c'est la collaboration qu'on a mis en place avec, avec Monsieur Voule. Et la dernière salle, elle reprend une exposition qui est Redland, que j'avais déjà exposée avec Coup de Com, donc l'association qui nous reçoit aujourd'hui. Et cette exposition reprend quand même un peu les thèmes de Redland. On est toujours sur la mise en scène d'un personnage dans un univers fantastique, mais qui pour le coup là-bas est beaucoup plus épuré sur des fonds blancs et des éléments rouges qui viennent raconter une histoire et qui laissent la place à la personne qui observe d'imaginer un peu ce qu'il veut en faire.
David Hulot, on peut dire que votre univers est très graphique.
Oui. Alors ma formation à la base, c'est une formation d'architecte. Donc on a pour le coup un travail très graphique et ça se ressent, je pense, aussi sur mes constructions et mes photos que je mets en place. Donc oui, ça a dû laisser des traces indéniablement.
Comment on passe justement de l'architecture à l'art donc photographique, quand même, qui est maintenant pour vous une part importante de votre travail?
Alors en fait, tout commence par un anniversaire pour mes 40 ans où je veux me faire plaisir avec un appareil photo qui était quand même un peu cher. Mais je me suis dit, bon, allez, maintenant, faut l'utiliser, cet appareil. Et finalement, 2 ans après, j'en ai acheté un encore plus cher et la photo m'a plus quitté. J'avais toujours bien aimé prendre des photos, voilà, mais sans recherche graphique pour le coup. Et là, ça a été peut-être une crise de la quarantaine. Et la bascule s'est faite et j'ai vraiment continué dans cette voie à partir de l'achat de cet appareil photo. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec l'architecture ? Peut-être les découpes de carton, ça me rappelle beaucoup les maquettes que je faisais quand j'étais étudiant. Mais voilà.
Donc, on va dire. David Hulot, 3 séries. Est-ce que vous travaillez déjà sur les prochaines expositions ?
Oui, il y a une série qui est basée sur les 7 péchés capitaux que j'ai terminée et qui, normalement, devrait être mise en galerie sur l'île d'ici quelques semaines, j'espère. Donc là, c'est un travail qui se fait en partie avec les fresques de Bruegel. Et sur lequel je travaille des personnages en monochrome, donc en ton sur ton, qui vont reprendre les différents péchés capitaux.
Ce serait présenté où, a priori ?
À la galerie L'Encadreur, rue Escarmoise.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Donc coup de com, un coup de com en plus ?
Un coup de com, mais pas un coup de bol. Parce que c'est beaucoup de travail, en fait. Il faut rechercher les artistes, il faut aussi que ces artistes-là correspondent à un univers bien précis. L'idée de coup de com, c'est de diffuser l'art sous toutes ses formes au plus grand nombre.
Donc ici, on est à l'ex-Banque de France et 2 artistes sont présentés dans cette expo qui va durer un moment, hein.
Tout à fait. Dans notre sélection, on cherche des artistes qui mettent de la couleur. Je pars du principe qu'on est dans un monde assez sombre et donc il faut mettre un petit peu de couleur et parsemer un peu ce monde pour le rendre un peu plus, on va dire, supportable.
Donc ces artistes sont lillois, on peut dire ça ?
Oui, enfin bon, tant qu'on les bat au foot, on les aime bien, mais on a perdu effectivement, si j'avais su. Non, c'est une blague.
C'était dans le contrat ?
C'était en contrat, mais bon. Mais non, les Hauts-de-France au maximum. L'idée, c'est de donner de la visibilité à des artistes qui n'en ont pas forcément. Bon, là, c'est vrai que Mr. Voule, il est un petit peu
roubaisien
et assez connu sur Roubaix. qui viennent envahir les murs de la Banque de France. Et quand je dis envahir, hein, il m'en a pris un complet là. Il va faire une performance demain. Et je me demande comment je vais faire pour ne pas l'enlever. Elle est tellement belle.
Après, dans la région de Lens, il y a aussi Louvre-Lens et la pépinière d'artistes. Ça existe encore ?
Oui, tout à fait. Alors, nous, ce qu'on cherche à faire, justement, c'est peut-être par le biais du pop art. Alors, j'ai bien le pop art, pas l'art contemporain, oui. Parce que c'est différent. Les gens confondent l'art contemporain et le pop art. Ça n'a rien à voir. Peut-être de sensibiliser les gens qui n'ont pas été forcément à l'art, on va dire, plus abstrait ou alors plus classique, ce qu'on peut voir au Louvre-Lens, hein, parce qu'on a fêté, voilà, on a fêté quand même les 10 ans du Louvre-Lens cette année. Je ne vais pas dire que les spectateurs ne sont pas au rendez-vous, mais on s'attendait quand même à plus, peut-être. Ça a bien démarré, mais au bout de 10 ans, ça baisse un petit peu. On est content d'avoir ce rouleau compresseur, mais je pense qu'on est passé un peu trop vite des mines à l'art. Le territoire n'était pas sensibilisé ni préparé. Sur Roubaix, par exemple, je fais le parallèle avec le musée de la piscine, ça a été un peu plus facile parce qu'il y avait déjà des écoles d'art sur Roubaix. Il n'y a pas d'école d'art à Lens. On est passé des mines au Louvre. On est passé du foot au Louvre. Donc forcément, 10 ans, le bilan, il n'est pas négatif, bien au contraire. Mais il y a beaucoup plus de touristes que de Lensois qui passent par le Louvre, c'est un peu dommage. Mais je pense qu'il faut juste les sensibiliser, leur expliquer, peut-être en passant par ici, pour après, ensuite, aller au Louvre. Mais ça va dans les deux sens. On est content que quand quelqu'un sort du Louvre, passe par la banque, on est super content d'accueillir.
Donc là, ces deux artistes sont très graphiques. On peut dire que c'est un peu flashy quelque part. Et puis, il y a une vraie, un vrai attrait d'un point de vue des couleurs, des formes, etc. On ressent tout de suite une ambiance.
Oui, l'idée vraiment, c'est d'être en immersion. Quand on vient ici, on est ailleurs. Voilà, c'est vraiment le but, c'est qu'on vient, on est complètement en immersion dans des univers colorés, gays. Et vraiment, c'est ça, c'est la magie qui opère ici. L'idée, c'est que quand on ressort de l'ex-Banque de France de Lens, c'est qu'on ait le sourire.
Donc le projet l'ex-Banque de France maintenant, pas vous appartient, mais vous êtes délégué pour un certain temps pour les expositions.
Pour 6 ans, et je vous invite tout à l'heure à visiter les salles immersives si vous ne l'avez pas encore fait. Donc il y a effectivement l'espace scénographique d'exposition d'art contemporain, mais on a dans l'aile droite donc concrétisé 5 salles immersives. Je vous en dis pas plus parce que faut pas vendre la mèche. Vous ouvrez une porte, vous êtes dans un univers. Vous ouvrez une deuxième porte, vous êtes dans un univers. Je vous y inviterai dans quelques instants. Vous verrez, on se prend une claque.
D'accord, ben on y va.
On y va.
Les salles immersives. Waouh.
Tout fait maison. Tout fait maison, ouais.
Waouh.
Tout fait tout seul, ouais.
Donc pour faire des studios photos peut-être ou...
C'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, il m'a laissé faire, mais non, on sait pas encore comment on va utiliser le truc, quoi. Et je pense que oui, il y aura de tout ce qui est séance photo, peut-être des anniversaires pour les petits, on verra. Des visites pour les écoles, je sais pas. On verra ce que ça donnera.
Voilà, donc on est sur un concept particulier.
Bah donc ouais, tout ce qui est salle immersive. Donc ici, on est dans la salle dinosaure. Et juste avant, on était sur la mine. Et la suite, on sera chez Alice au Pays des Merveilles. Qui après, il y a une quatrième, ça sera Al Capone, le bureau d'Al Capone. Et une cinquième qui sera Harry Potter.
Donc on est dans une ambiance particulière. Alors dans cette salle, ici, on va dire, il y a des animaux bizarres sur les murs, partout. Il y a une ambiance un peu brumeuse, enfumée. Et puis il y a cette musique qu'on entend là.
C'est ça. Bah, donc on est basé sur tout ce qui est Jurassic Park. Hein. Donc c'est bien c'est la musique Jurassic Park, tout simplement. Et donc là, si vous voulez, on va passer juste à côté, voir Alice au Pays des Merveilles. Hein ?
Là ? Ah ouais, faut se faire petit, quoi.
Donc là, c'est un univers ouais, quand même assez particulier. On est entre le dessin animé et les films. Parce qu'on a des décors quand même assez différents entre le dessin animé et ce qui concerne le film. Les films, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Et donc, on a essayé de faire tout ce qui est le plus réalisme possible, on va dire.
Alors à la fois réaliste et surréaliste. Hein.
Ouais, moi je le fais tellement naturellement que les gens trouvent ça surréaliste, mais pour moi, je trouve ça naturel. Enfin c'est naturel, c'est dans ma tête ça.
Donc en fait c'est comme dans Alice au pays des merveilles, on passe au travers les murs, les chaises sont renversées, les pendules obliques, enfin tout est un peu décalé.
Quand elle tombe du terrier en fait, tout simplement dans le dessin animé quoi, et dans le film aussi.
Donc au départ qui crée ces espaces?
C'est moi.
C'est vous, vous êtes qui?
Alors moi, mon surnom, c'est Bang Bang, mais sinon, mon prénom, c'est Cédric. D'accord. Donc, j'ai rien à voir avec l'univers artistique, hein. Moi, c'est une première. Donc, il y a Alexandre Krizik qui m'a laissé carte blanche. Il m'a fait confiance, et puis j'ai attaqué ça, et c'est une première, quoi. Sinon, de base, je suis coach sportif. Donc, voilà, rien à voir avec le milieu artistique.
Ça change un peu.
Ça change, ah bah c'est clair. Après... J'avais ça en tête depuis quasiment une petite année de faire des salles immersives, mais il fallait trouver la place, quoi. Et la rencontre avec Alexandre, elle s'est faite il y a 2-3 mois par hasard, et puis on en est là, quoi. Mmh, très
bien. Donc là, on peut peut-être voir les autres espaces.
Bien sûr, donc là, on va passer dans le bureau d'Al Capone.
Alors, je me fais tout petit parce que la porte, sinon, je passe pas. Ah, ça va, ça va. Al Capone, il y a un danger en rentrant
Non. Mais après, il y a quand même des armes factices. Hein.
Ouais. Ah ouais, Al Capone. Voilà, il y a des dollars qui traînent. Il y a un bureau avec le gros cigare, le Havane. Et puis les téléphones. Alors je sais pas, on peut pas dire d'époque vraiment, mais qui ressemble à un vieux téléphone des années 30, 40.
Et le fusil Thompson aussi, le fameux fusil Thompson. Là-bas contre la fenêtre. Ouais. Avec le bariron.
Donc, et puis, on a des photos de mafieux là-bas.
C'est ça. Donc, il a eu plusieurs, on va dire, procès. Il n'a jamais été inculpé pour meurtre. Et il a eu plusieurs procès, justement, avec le fisc. Fausse déclaration fiscale et compagnie. Donc, ils ont réussi à l'attraper, on va dire, l'emprisonner grâce à ça. Donc là, les photos, c'est ce qui représente plus ou moins des procès. Un peu sa vie aussi avec sa famille, ses amis. Et puis voilà, comme ils disent aussi à la télé, la télé c'est une télé de 1950-49 exactement. Et donc il y a l'histoire d'Al Capone dessus, ça retrace un peu son parcours.
Voilà, et puis l'alcool frelaté ou le vrai?
Non, c'est faux. Factice, tout est factice, même les armes c'est factice.
Donc la prohibition c'était aussi à cette époque, hein?
Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Donc là c'est un petit peu hallucinant parce que... À l'époque, ils refusaient aux gens de boire une bière dans un bar, quoi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si... Hein, tout le monde serait du côté d'Al Capone, je crois, aujourd'hui.
Tout dépend des pays, hein.
Tout dépend des pays, c'est vrai. Ouais, ouais.
Voilà, donc un espace aussi très particulier, très précis, on peut dire, qui a une forme d'authenticité.
Ouais, ouais, en fait, dans chaque pièce, le but, c'est quand on rentre, on se sente un petit peu ailleurs. Et puis, tout simplement... C'est des époques vraiment différentes. On va dire que c'est un peu comme dans un rêve. On passe du coq à l'âne. On est chez Alice, après on est chez Harry Potter, on se retrouve chez Al Capone, on est chez les dinosaures. C'est un petit peu comme un rêve, en fin de compte.
Voilà, donc des photos sympas, là, des vidéos, enfin, la télévision qui présente des photos, qui commente aussi toute l'histoire d'Al Capone et tout ça, quoi.
Suite à cette nouvelle mesure, de nombreux bars clandestins sont fermés, contraignant les gangsters à quitter Chicago.
Voilà, on va passer de Chicago à Harry Potter, allez.
Donc là, l'univers sorcier. Donc là, j'ai fait un mélange un petit peu de tous les Harry Potter, on va dire, dans une pièce. Alors avec des pièces de collection.
Collection.
Ah ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, vous avez l'œuf d'or. Là, vous avez la coupe de Dumbledore. La fameuse épée aussi, là, le masque de Béatrix, je sais plus bien. Bon, bref, il y a un mélange. Et puis après, j'ai fait aussi des petites formules magiques moi-même, dans des petites potions magiques dans des bouteilles.
Avec des flammes qui vacillent sous le crâne, là.
Ouais, et puis là, il y a ce côté-là aussi des livres qui s'envolent.
Ah ouais. D'accord. En fait, sur les quatre murs et même au plafond.
Ouais, le balai, le fameux balai Nimbus 2000.
Donc là, c'est la musique de Harry Potter.
C'est ça, exactement. Donc on a quasi 2 heures, même 3 heures de musique sur Harry Potter.
Bon, ben voilà encore un espace original. Donc là, c'est pas forcément prévu pour s'asseoir, c'est pour on va dire, entrer dans...
Non, mais le but, avec le temps, si, c'est d'organiser des espaces selfies. Là, il y a carrément les caps et tout ça, donc les gens pourront les mettre s'ils veulent, pour faire des selfies, et puis voilà, tout simplement, ou s'ils veulent des vidéos YouTube aussi. Donc non, il y a un concept, il y a un bon concept qui va être mis en place, on va dire, mi-décembre. Donc pour les anniversaires, et puis aussi, je vous dis, pour des vidéos YouTube, pour des séances photos.
Ce sera un peu privatisé, d'une certaine
c'est
manière.
C'est ça, en fait, les gens, je pense qu'on va procéder par location. Et donc, ils auront un bon moment pour faire toutes les pièces avec des photos originales, quoi.
Il y aura un genre de catalogue avant où les gens pourront déjà savoir dans quelle pièce s'inscrire.
On fera un site, je pense qu'on va faire une petite page internet avec les photos, peut-être des vidéos. Mais j'ai aussi un ami qui risque de faire un... Comment on appelle ça ?
Une visite virtuelle 3D des lieux pour communiquer autrement, présenter autrement que par l'intermédiaire de photos, belles photos, mais figées, quoi.
Disons qu'après, cette visite virtuelle permettra d'en comprendre, d'en évaluer toutes les possibilités.
Voilà, d'évaluer toutes les possibilités, de se rendre compte de ce que c'est, et puis de susciter surtout l'envie de venir. C'est les systèmes de visite virtuelle 3D poussent plus que des photos à visiter les lieux en réel. Malgré ce que l'on peut croire au départ en disant « je veux du réel et pas du virtuel », et en fait, le virtuel aide beaucoup à la réalité. On l'a constaté avec des musées, on l'a constaté avec des entreprises qui l'ont utilisé, qui ont osé passer le pas. Et aujourd'hui, des gens des lieux très éloignés vont, le jour où ils se déplacent, aller dans les lieux qu'ils ont visités virtuellement. Ils vont se retrouver dans le physique, dans telle ou telle entreprise, ou ici, parce qu'ils l'ont vu.
Vous pouvez peut-être vous présenter ?
Moi, je suis Philippe Crisostagnac, je suis le créateur d'APM 360, qui est donc une société qui crée des mondes virtuels pré-câblés multivers, métaverse, et qui permet à tout type d'entreprise de proposer ces lieux en 3D, en visite virtuelle 3D, multi-utilisateur. Et interactif et enrichi comme la réalité.
Donc ici on est à Lens, est-ce qu'il y a des expériences où ça a déjà fonctionné un peu sur le même concept ?
Alors ce concept est assez novateur, de pouvoir gérer des micro-lieux sur des thèmes spécifiques. Par contre, c'est la même chose que visiter un musée sur une expo, comme là on a fait le Rome. Dans quelques jours je vais numériser Champollion. Mais d'autres musées dans la région qui utilisent justement ce système-là pour prévoir, pour permettre en fait à des écoles, à des particuliers de visiter ou revisiter des lieux ou préparer des visites physiques grâce au virtuel.
Très bien. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est mieux que rien.
Alors justement, l'intérêt aussi, c'est que pour ceux qui sont à l'autre bout de la France, par exemple, c'est de pouvoir visiter les lieux comme s'ils étaient là. Je pense à Coup de Com qui utilise notre système, mon système, pour pouvoir présenter ses expos, toutes les expos qu'il fait, et surtout d'historiser les expositions.
Donc le projet qui est ici, donc à l'Ex-Bank de France, il va rester longtemps en présentation accessible au public ?
Toujours disponible, surtout après démontage des expositions. L'intérêt, c'est de pouvoir continuer à voir ces expos et le travail des artistes, ou ici, le travail que Cédric a fait sur l'ensemble de ses pièces.
Voilà, donc un projet permanent à l'Ex-Bank de France.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Alors, on va terminer par une salle qui est à l'image de ce territoire, on va dire, avec sa mémoire.
C'est ça, j'ai voulu faire un petit clin d'œil, on va dire, en sachant qu'on était dans le bassin minier. Je me suis dit, il faut faire un petit clin d'œil à la mine quand même. Donc, tant qu'à faire une salle immersive, puis il y a des gens qui ne viendront pas forcément que du Nord. Donc, faire une petite photo selfie dans la mine, ça peut être sympa pour eux en souvenir, quoi.
Voilà, donc des murs de charbon.
C'est ça, des murs de charbon. Donc en fait, tout simplement en résine que j'ai récupéré et que j'ai repeint avec quelques outils. Mais il manque encore pas mal de, on va dire, de casques, tout ça, de barrettes. Comme ça, les gens pourront les mettre sur leur tête et faire la photo, souvenir.
Voilà, on a compris, je pense, hein, tout le potentiel de ces espaces. Et on souhaite bien sûr bon vent, bon succès à cette initiative.
Merci bien. Merci.